Bonjour et bienvenue, 15h TU, 17h ici à Paris, le journal sur RFI.
Gilles Moreau.
Dans l'actualité, l'Allemande Ursula von der Leyen en route vers un nouveau mandat à la tête de la Commission européenne. Réunis à Bruxelles, les dirigeants des 27 vont valider les nominations au poste clé de l'UE. Également à l'ordre du jour, l'aide à l'Ukraine. Volodymyr Zelensky est à Bruxelles où un pacte de sécurité a été signé. Le président ukrainien s'est aussi exprimé sur les législatives en France. Vous l'entendrez. Dans ce journal aussi, une tentative de coup d'État déjouée en Bolivie. Aux États-Unis, le premier débat télévisé de la campagne présidentielle. Et en Allemagne, la droite opposée à une réforme de la nationalité qui raccourcit les délais d'obtention. Les chefs d'État et de gouvernement des 27 sont donc réunis en sommet à Bruxelles, leur premier sommet depuis les récentes élections européennes. Les trois familles politiques composant la majorité sortante ont reconduit leur coalition pour les cinq prochaines années. Quant aux nominations aux postes stratégiques de l'UE, à commencer par la présidence de la Commission, elles sont déjà quasiment actées. En ligne de Bruxelles, Pierre Benazé.
Le tiercé des nominations pour diriger la Commission, la diplomatie européenne et le Conseil est déjà acquis selon les trois partis de la coalition. La droite, les sociaux-démocrates et les centristes libéraux se sont mis d'accord mardi sur leur liste définitive. Ursula von der Leyen est maintenue à la Commission. L'ancien Premier ministre portugais António Costa présidera le Conseil européen qui rassemble les chefs d'État et de gouvernement. La Première ministre estonienne, Kaja Kallas, dirigera la diplomatie de l'UE. Mais cette décision est vécue comme un oukase par les trois pays qui ne sont pas dirigés par un membre de cette coalition. C'est surtout le cas de l'italienne, Giorgia Meloni, dont le parti a fait un bond très net au Parlement et qui rue dans les brancards. Une négociation pourrait déboucher sur un lot de consolation, comme la promesse d'un portefeuille élargi pour le commissaire italien. En tout état de cause, ce ne pourrait être qu'une décision stratégique pour amadouer l'Italie. Elle n'a pas les moyens de s'opposer à une décision prise à une écrasante majorité, 24 pays sur 27. Mais les Européens tiennent souvent à arrondir les angles lors de ces décisions qui engagent leur avenir commun. Pierre Benazet, Bruxelles. RFI.
L'accord sur les postes clés de l'UE a donc suscité la colère de l'italienne Giorgia Meloni et celle du hongrois Viktor Orban. Les électeurs européens ont été trompés, a réagi le premier ministre nationaliste hongrois qui prend bientôt la présidence de l'UE. Invité des 27 à Bruxelles, Volodymyr Zelensky, le président ukrainien a signé un accord de sécurité et réclamé une fois encore des armes. Alors que depuis la Seconde Guerre mondiale, l'extrême droite n'a jamais été aussi près de prendre le pouvoir en France. Il se veut confiant, convaincu que le nouveau gouvernement français maintiendra son soutien à l'Ukraine face à la Russie. Volodymyr Zelensky.
Bien sûr, une élection, c'est une décision d'un côté ou d'un autre. On ne peut pas faire pression sur les électeurs et on ne le veut pas. C'est ça la liberté. C'est au passage pour ces valeurs que nous nous battons. Donc c'est pour ça que j'espère que la plupart des pays resteront du bon côté de l'histoire, de notre côté.
Le président ukrainien à Bruxelles au micro de Julien Chavannes. À trois jours du premier tour des législatives en France, le Rassemblement national mène toujours la course avec 36% des intentions de vote, sondage Ipsos pour Le Monde. Le nouveau Front populaire, l'Alliance des gauches, recueillerait 29%, le camp macroniste 19,5% et LR 8%. Ce soir, les représentants des trois grands blocs se retrouvent pour un ultime débat télévisé. On verra débattre sur France 2, Gabriel Attal pour la majorité présidentielle, Jordan Bardella pour le RN et Olivier Faure pour le nouveau Front populaire.
RFI.
Parmi d'autres pays dont la France, la Russie a fermement condamné la tentative de coup d'État d'hier en Bolivie. Inadmissible pour Moscou qui a redit son soutien indéfectible au président bolivien. Sur place, à La Paz, deux chefs militaires ont été arrêtés. Ils font l'objet de poursuites pour soulèvement, armée et terrorisme. Parmi eux, le chef de l'armée, le général Zuniga. C'est lui qui a massé des hommes et des blindés devant le palais présidentiel. Sur les raisons de cette tentative et de son échec, l'analyse d'un spécialiste de l'Amérique latine, Gaspard Estrada, politologue à Sciences Po Paris.
Il y a depuis déjà de nombreuses semaines beaucoup d'agitation sociale à la suite d'une division qui oppose l'ancien président Morales au président Arce. Dans un contexte préélectoral, il y aura des élections en 2025. Le général Zuniga a pris des mots de plus en plus durs à l'encontre de l'ancien président Morales. Et lorsque le président Arce a décidé de le démettre compte tenu de cette réponse vis-à-vis du président Morales, et il y a eu une sorte de fuite en avant de la part de l'armée, en tout cas une partie de l'armée. Cela, visiblement, a échoué parce que le gouvernement a tenu tête. Il a très rapidement remplacé les dirigeants de l'armée, alerté la communauté internationale et, de manière plus surprenante, les dirigeants de l'opposition ont eux aussi soutenu le gouvernement et donc le général Zúñiga a dû non seulement battre en retraite, mais surtout a été arrêté.
Le politologue Gaspard Estrada, interrogé par Christophe Pagé. Aux États-Unis, tous les regards sont tournés vers Atlanta, en Géorgie. C'est là que la chaîne CNN organise ce soir le premier débat télévisé de la campagne, un peu plus de 4 mois de la présidentielle américaine. Face à face, Donald Trump et Joe Biden, les enjeux sont très importants, en particulier pour le président sortant. Guillaume Nodin est notre envoyé spécial permanent à Washington.
Quand on décrit son adversaire comme inapte à exercer la fonction présidentielle, on n'a soi-même pas vraiment le droit à l'erreur. C'est le premier défi de Joe Biden, prouver aux électeurs qu'il est encore capable, à plus de 80 ans, de continuer à occuper le bureau ovale. Si les deux hommes sont âgés, s'ils ont tous les deux des moments de confusion devenus viraux, la perception majoritaire, c'est que Joe Biden doit davantage rassurer sur ses capacités. Le deuxième défi, ce sera d'imposer son récit d'un mandat réussi et d'une action forte, y compris sur ce que les républicains ont identifié comme des faiblesses, l'immigration et l'inflation. Et puis, Joe Biden voudra montrer qu'il est davantage digne de la fonction avec le discours d'un Donald Trump dangereux pour la démocratie et les libertés et condamné au pénal. Les conseillers du président assurent qu'il se prépare à toutes les éventualités, y compris celle d'un adversaire plus calme que d'habitude. Les règles semblent le favoriser, absence de public et micro coupé quand l'autre s'exprimera. Pour réussir ce débat capital, le président se prépare à Camp David à coups de simulation depuis une semaine, parfois rudement, paraît-il, parce que dans le confort de la Maison-Blanche, on a sans doute moins l'habitude d'être contredit. Les Américains ont une expression pour cela, secouer la rouille. Guillaume Nodin, Washington, RFI.
Toujours des troubles au Kenya, mais cette fois le sang n'a, semble-t-il, pas coulé. Aujourd'hui, la police a tiré des gaz lacrymogènes et des balles en caoutchouc contre des manifestants rassemblés par petits groupes dans la capitale Nairobi. Des échauffourées ont éclaté, mais rien de comparable avec les violences meurtrières de mardi. En Cisjordanie occupée, le djihad islamique palestinien revendique des explosions lors d'une incursion israélienne à Jenin, dans le nord du territoire. Un soldat israélien a été tué, 16 autres blessés. En Iran, c'est veille d'élection présidentielle. La campagne électorale a pris fin ce matin, 24 heures avant l'ouverture des bureaux de vote. Demain, les Iraniens éliront le successeur d'Ebrahim Raisi, décédé le 19 mai dans un accident d'hélicoptère. Direction maintenant l'Allemagne, avec l'entrée en vigueur aujourd'hui d'une importante réforme du gouvernement Scholz. C'est une refonte des règles de naturalisation qui raccourcit les délais d'obtention au profit des migrants. Cette réforme fait polémique sur fond de montée de l'extrême droite en Allemagne. Les chrétiens démocrates veulent la remettre en cause s'ils reviennent aux affaires. Explication à Berlin de Pascal Thibault.
Pour les uns à gauche, à commencer par les Verts, c'est une révolution copernicienne qui modernise le pays en le rendant plus accueillant pour les migrants. Pour d'autres, à droite et à l'extrême droite, on brade la nationalité allemande et on crée un appel d'air pour de nouveaux arrivants, alors que l'heure devrait être un contrôle strict de la migration. Une des réformes sociétales centrales de l'actuel gouvernement entre en vigueur aujourd'hui. Elle facilite l'obtention de la nationalité allemande en raccourcissant les délais. Il faudra désormais 5 ans au lieu de 8 pour l'obtenir. Pour des personnes bien intégrées, actives socialement, ce délai pourra même être réduit à 3 années. Autre changement, la double nationalité devient la règle alors que l'Allemagne ne l'autorisait jusqu'à présent que pour les ressortissants de l'Union européenne et de la Suisse. Les autorités s'attendent à un afflux de demandes malgré des délais d'attente souvent longs. 200 000 dossiers sont aujourd'hui en suspens, rien que dans les grandes villes d'après un sondage. En 2023, 200 000 personnes ont été naturalisées, le chiffre le plus élevé depuis l'an 2000. Pascal Thibault, Berlin RFI.
À l'Euro de football organisé en Allemagne, c'est la fin de la phase des matchs de groupe. Place maintenant aux huitièmes de finale qui seront disputés entre samedi et mardi prochain. Enfin, c'est à Isabelle Huppert que revient le prix Lumière décerné à Lyon. La 16e édition du Festival international de cinéma de Lyon commencera le 12 octobre. L'actrice et productrice française a 71 ans. Sa carrière embrasse une part immense de l'histoire du cinéma, expliquent les organisateurs du festival. Bonne journée sur RFI. Tout de suite avec Jean-François Cadet. Jean-François, bonjour.
Bonjour et merci, c'était le journal de Gilles Moreau.